Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
C'était en février 2013. Je rentrais de 2 semaines au Rwanda, où j'avais tourné des reportages à l'occasion du 20e anniversaire du génocide des Tutsis. Déjà pendant les vacances de Noël, pour préparer le voyage, j'avais lu tous les livres de Jean Hatzfeld. Dans le nu de la vie, une saison de machette, la stratégie des antilopes, qui raconte le génocide dans les marais et les collines de la région du Bugesera. J'avais commencé à approcher l'atroce routine de ce génocide de voisinage, son vocabulaire, ses rituels. Je me souviens que ces lectures étaient éprouvantes. Au lieu de répondre à des questions, elles ne cessaient d'en poser d'insolubles. Les fêtes de fin d'année ont eu un drôle de goût. Une fois au Rwanda, j'ai suivi les traces de Jean Hatzfeld, j'ai rencontré des rescapés, avec des histoires à peine audibles, et des génocidaires, sans grand remords, qui n'étaient pas là, qui n'avaient jamais rien fait. C'était le plus difficile à entendre. Mais enfin, je ne vais pas me plaindre, ni vous refaire la série des pieds sur terre que vous avez peut-être entendue au Rwanda. En rentrant, j'ai réécouté, monté, j'ai fait mon travail comme d'habitude. Le premier jour de diffusion de la série, de cette série sur le Rwanda, est arrivé. Ce qui s'est passé est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Au lieu de ma petite présentation habituelle, voici ce que les auditeurs ont entendu.
Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, nous partons au Rwanda avec Kigali à marche forcée, un reportage de Sonia Kronlund, présenté par Sandrine Trainer, qui a prêté sa voix à Sonia.
Il n'y avait plus rien, pas un filet de voix, pas un son qui sortait de ma bouche. Juste de quoi chuchoter d'énervement. Le génocide était-il indicible ? Est-ce qu'il m'avait laissé sans voix ? Ou bien est-ce que j'avais juste pris froid dans l'avion ? Je ne sais pas. C'est en tout cas mon seul souvenir d'avoir perdu la voix d'un seul coup. Deux autres histoires de voix qui se font la malle. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, c'est jusqu'à 14h sur France Culture. Elles sont racontées par Élise Andrieux.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Qu'est-ce qu'on est sans savoir ? Eh bien, pour moi, pas grand-chose. Ne pas pouvoir parler, non, pour moi, c'est... Moi, j'avais l'impression de ne pas vraiment exister sans pouvoir parler.
L'histoire de Chantal.
Alors, l'histoire a commencé de manière plutôt agréable, par un week-end à Center Park avec mon mari, mes enfants et les petits-enfants, où nous étions partis sur un week-end prolongé. Et en sortant du jacuzzi, j'ai fait une chute, j'ai glissé et voilà, je me suis fracturé l'épaule. Le chirurgien m'a dit qu'il ne souhaitait pas opérer. Et il me délivre un arrêt de travail que je ne vérifie pas et c'est juste au moment de payer ma consultation auprès de la secrétaire que je m'aperçois que j'ai un arrêt de travail de mi-juin 2012 jusque début octobre. Donc je dois dire que moi, mon travail, c'est important pour moi. Je suis chargée de recrutement, j'aime ce que je fais, je suis très dynamique, active et je découvre que pendant plusieurs mois, je vais être coincée chez moi à cause de cette fracture d'épaule. Ça ne m'a pas plu, ça ne m'a pas plu du tout et j'ai pensé que c'était peut-être une erreur. Et le médecin revient vers moi en me disant « Écoutez, madame, vous faites comme vous voulez, mais je tiens à vous dire que de toute façon, pendant toute cette période-là, avec votre épaule, vous n'allez être bonne à rien. Et cet arrêt, voilà, il est jusqu'au mois d'octobre parce qu'il doit être comme ça et vous n'allez être bonne à rien pendant toute cette période. » Ok. Donc, je lui fais confiance et je prends cet arrêt et voilà. La suite de l'histoire, on fait un petit bond et donc on se retrouve au mois d'août, toujours 2012, où mon fils fête ses 18 ans et donc nous allons au restaurant pour fêter ses 18 ans. La clim est un petit peu forte, j'ai presque plus de voix. Je sens que ça me racle un petit peu au niveau de la gorge, je sens que ma voix est en train de dérailler. Donc le lendemain, je consulte mon généraliste qui me dit que c'est une laryngite, qui me donne un traitement d'une semaine et qui me dit « bon bah ça devrait passer, si ça ne passe pas, consultez votre ORL ». Donc le traitement n'ayant pas fait effet, je consulte l'ORL qui me donne un traitement plus fort à base de cortisone pendant 10 jours et qui me dit que normalement il n'y aura pas de souci. Malgré tout, 10 jours après, avec le traitement, la voix n'est pas là. Donc je reprends contact avec l'ORL qui me dit qu'il va falloir qu'elle aille explorer les cordes vocales, voir un petit peu ce qui se passe parce que c'est pas normal.
Vous commenciez à avoir peur ?
Un petit peu, mais pas plus que ça. Et j'ai eu raison de ne pas avoir peur, parce que la laryngoscopie que j'ai passée était normale. Et donc, là, c'était un petit peu plus ennuyeux, parce qu'elle a commencé à me dire que ça pouvait être quelque chose qui pouvait être d'ordre psychologique. Mais bon, personnellement, je ne voyais pas. Je n'avais pas une vie particulièrement pénible, en quoi que ce soit. Donc, je ne comprenais pas. Les médecins étaient perplexes. Ce qui était compliqué, c'est que le temps commençait à passer. La vie à la maison, avec mon mari, avec les enfants, ça devenait problématique. On s'imagine pas comment l'enfermement. Moi, j'étais plus connectée avec les autres. J'étais obligée de taper dans les mains quand je voulais appeler les enfants s'ils étaient à l'étage. Vous êtes confrontée à vous-même en permanence. C'est une prison. C'est vraiment une prison. Parce que vous entendez les autres. On peut vous parler, mais vous ne pouvez pas répondre. Donc non, je ne disais rien.
Donc là, ça faisait combien de temps que vous n'aviez plus de voix ?
Ça faisait un peu plus de... pas loin d'un mois, un peu plus de 3 semaines. Donc on m'a prescrit des séances d'orthophonie pour apprendre à respirer par le ventre, retrouver une sensation de son au niveau de la gorge. Enfin, c'était quelque chose qui a été compliqué parce que ça n'a pas marché. J'ai eu 40 séances d'orthophonie et il y avait parfois un filet qui revenait. Il fallait 3 fois par semaine aller à la clinique pour réapprendre à parler. C'était terrible, terrible, terrible. Le temps passe et vous avez les voisins, vous avez vos amis qui vous demandent « Et alors, t'en es où ? Mais c'est pas possible, mais tu reparles toujours pas, mais comment ça se fait ?» Et ils trouvent pas. Vous avez le téléphone qui sonne chez vous. Vous ne pouvez même pas décrocher, parce que si vous décrochez, on vous raccroche au nez, parce qu'ils pensent qu'il n'y a personne au bout du fil. Le fait aussi, où quand vous sortez, je me suis retrouvée à me promener pour changer d'air dans les bois derrière chez moi, et de me retrouver face à un chien qui me regardait et qui s'est mis à m'aboyer dessus. Et moi, là, je me suis vue, mais morte, parce que je ne pouvais pas crier. Le chien continuait à me suivre, j'avançais, et je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer s'il me saute dessus? Je me fais littéralement dévorer par ce chien parce que il n'y a pas de son, il n'y a rien qui sort. Donc voilà, et finalement le chien a passé son chemin. Mais c'est plein de petites choses. Bon, parce que quand vous vous levez le matin, vous vous mettez devant votre glace et vous parlez. Vous essayez de vous parler et vous êtes en train de vous regarder. Vous avez les lèvres qui bougent, mais il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien. Vous voulez chanter, il n'y a rien. Vous voulez pleurer, vous pleurez, mais il n'y a même pas un son qui sort quand vous pleurez. Vous n'avez pas de voix, vous ne parlez pas pendant une semaine, 15 jours, on s'inquiète un petit peu, on dira « bon, vous ne parlez toujours pas, là là, mais ça dure ». Et quand ça finit par durer et durer et durer, il y a un petit peu les sarcasmes des commerçants, la boulangère qui, plusieurs fois par semaine, se permettait de me dire « oh, vous n'avez toujours pas retrouvé votre voix, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils doivent être contents à la maison, ça doit être calme, votre mari doit être tranquille, les enfants doivent être tranquilles ». Donc on vous le dit une fois, mais quand on vous le répète 3 fois par semaine, ce sont des blagues, un petit peu faciles, mais les gens ne se rendent pas compte que, mis bout à bout, ça gonfle, ça énerve. Donc après, je ne sortais plus prendre le pain. Je me débrouillais pour que ce soit mon mari qui le prenne. J'évitais de faire les courses parce que j'en avais plus qu'assez, qu'on me rabâche toujours la même chose, quoi. Donc, j'avais pas la tête à m'amuser. Je ne souhaitais juste qu'une chose, pouvoir parler, pouvoir retrouver cette voix et qui n'était pas là, qui continuait à me faire défaut et que j'attendais. Mon généraliste me prolongeait tous les mois en arrêt, et on arrive au mois de décembre, et là il me dit, écoutez, j'en ai parlé de votre cas à des personnes qui connaissent un petit peu ce problème-là parmi des confrères, et on m'a conseillé de vous envoyer consulter à l'hôpital Georges Pompidou qui est à Paris. Donc il a fallu attendre encore un mois. Donc là nous étions début décembre et donc j'ai obtenu le rendez-vous début janvier. Et nous allons à ce rendez-vous avec mon mari. Le docteur nous reçoit et d'emblée regarde tous les examens que j'ai apportés, les différents comptes rendus. Et elle pose la question à mon mari. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie à votre épouse dernièrement, au cours de cette année? Est-ce que vous avez vécu des situations compliquées, difficiles? Expliquez-moi. Et là, mon mari explique que je me suis fracturé l'épaule au mois de juin, que j'ai très mal vécu cette fracture dans le sens où il a fallu que je sois arrêtée longtemps. Et mon mari explique que le chirurgien que j'ai vu nous a dit que, en fin de compte, cet arrêt était justifié par rapport à la fracture que j'avais et que de toute façon, je ne serais bonne à rien pour travailler, pour faire quoi que ce soit pendant cette période. Et là, le médecin me regarde et elle me dit « Madame, votre voix va revenir, mais ça risque d'être très très long ou bien ça va revenir très très vite. Ce que vous avez, voilà, ça s'appelle une dysphonie psychologique. » Elle dit « Votre subconscient a travaillé et a pris pour argent comptant les paroles de ce médecin qui vous a dit « Vous n'allez être bonne à rien. » Et effectivement, vous vous êtes dit « Je ne vais être bonne à rien. » Et là, c'est le choc. Parce que cette phrase-là, elle m'est restée en mémoire, mais je n'ai pas eu l'impression qu'elle avait eu un intérêt si important que ça pour moi. Je me rappelais très bien parce que j'ai trouvé que c'était pas très professionnel de sa part de me le dire comme ça, mais je n'ai pas eu l'impression que ça avait eu un impact vraiment particulier. Donc, on ressort, je peux pas dire content, avec un avis en fin de compte avec mon mari. On ressort, on a un avis, on se dit que bon, peut-être que oui. On est dubitatif, mais pourquoi pas. Et puis, nous allons au restaurant avant que mon mari reparte en réunion. Nous mangeons, mon mari me laisse sur le trottoir, je dois rentrer en transport en commun et lui s'en va. Et je suis un petit peu perdue dans Paris, je ne sais plus trop où nous sommes. Il faut que je demande mon chemin. Et comme d'habitude, c'est toujours très compliqué parce que quand c'est quelqu'un en plus qui ne vous connaît pas, je m'approche d'une personne et je l'attrape un petit peu, je m'approche de lui pour l'attraper par le bras et lui faire comprendre que j'ai des difficultés à parler et qu'il ne va pas m'entendre. Et là, je lui dis « Excusez-moi, monsieur ». Et voilà, ces deux simples mots-là, « Excusez-moi, monsieur », je l'ai dit comme je suis en train de le dire là aujourd'hui. Ma voix est là, je parle, je me mets à pleurer, il me demande ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, est-ce que j'ai besoin d'aide et tout. Et là, je lui explique rapidement, monsieur, je parle, ça fait presque 5 mois que je ne parlais plus. Et là, j'ai le téléphone qui sonne et c'est mon fils qui savait que j'avais ce rendez-vous-là et qui m'appelle pour voir si je parle, et là je parle au téléphone, je lui dis « ça y est, ça va, j'ai retrouvé ma voix », et voilà. Et on pleure, et voilà, c'est ça y est.
France Culture, les pieds sur terre.
La voix est revenue, et en fin de compte... Le médecin, le phoniatre de Georges Pompidou a posé le bon diagnostic, m'a dit que ça allait être très long, ou pas, Et là, l'espace d'une heure et demie après, ma voix est là. Donc c'est une grande joie et c'est une grande frayeur. Parce que j'ai eu peur que cette voix me soit rendue, mais qu'un laps de temps, qu'elle puisse repartir, qu'elle soit fuyante, qu'elle ne dure pas. Et j'ai repris le train pour rentrer chez moi. Et tout était prétexte pour moi à vérifier que je pouvais parler. J'ai demandé dans le train plusieurs fois l'heure. Je me suis acheté une viennoiserie alors que je n'en avais pas envie, mais simplement pour voir que ça continuait à fonctionner. Donc c'était une sensation. Je revivais, tout simplement. Je revivais. Je communiquais, je revivais. Je me disais, c'est presque une renaissance. Et la seule personne qui n'avait pas été prévenue, c'était mon mari. Et le soir, quand il est rentré, j'étais déjà là, il est rentré tard, il a dit « Est-ce que quelqu'un a pensé à prendre du pain ?» Et moi, je me suis plantée juste devant lui et je lui ai simplement dit « Oui, moi j'en ai pris. » Et là, c'est pas possible. Et voilà. Elle était là, cette voix qui m'avait fait défaut, qui m'avait abandonnée, qui m'empêchait de vivre normalement, elle était de nouveau là.
Valentine.
Mon histoire commence avec une famille dans laquelle on chante tout le temps. On chante en voiture, on chante tous ensemble. Et le chant, c'est quelque chose de très naturel pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on parle fort, qu'on crie beaucoup, qu'on rit beaucoup. Et on a souvent la voix cassée. Et donc... J'ai fait un peu de travail vocal quand j'avais 10 ans pour essayer de ne plus avoir la voix cassée. Ça a fonctionné et j'ai de moins en moins perdu ma voix. Et puis il y a quelques années, j'ai recommencé à utiliser ma voix de manière courante. Donc non seulement parce que je donne des cours de formation musicale au conservatoire et parce que je chante en chœur. Et dans cette pratique de chœur qui durait plusieurs jours, 10 jours, j'ai perdu ma voix. J'ai senti, tout en étant dans une ambiance festive avec tout le monde, que j'étais en train d'aller trop loin. Et puis j'ai senti quelque chose un peu dans ma gorge, mais je saurais pas dire quoi exactement. Et puis j'ai mis ça de côté, j'ai laissé tomber et l'idée. Et le lendemain, je pouvais vraiment plus parler du tout. Petit à petit, elle est revenue dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'elle est revenue... J'ai pu faire autre chose que ça, quoi. Mais c'était, on va dire, comme ça. Voilà, pas plus, quoi. Donc, d'un point de vue pratique, il a fallu que je trie ce que j'avais à dire, parce que au tout début, chaque parole me coûtait vraiment beaucoup au niveau énergie. Et donc, il fallait forcément trier à chaque fois que j'avais envie de dire quelque chose. Ça, c'était, oh, non, ça, c'est pas la peine, finalement. Je vais le dire autrement ou je vais pas le dire. Donc c'est une grosse frustration et puis en même temps c'est une grosse remise en question de la parole, quoi. Et ça, Ben, c'est une approche que je n'avais jamais eue jusque-là. C'est-à-dire, en fait, de m'écouter. Et c'est justement quelque chose que je suis en train de formuler depuis quelques mois, auprès de ma mère notamment. Est-ce que j'ai eu le droit de dire ce que j'avais à dire ? Et effectivement, non. C'est quelque chose que je ressens fortement, que dans ma famille, il y a peu d'écoute, notamment des enfants, et beaucoup d'écoute de ce que l'adulte désire pour l'enfant. Donc c'est probablement pas anodin, j'imagine, par rapport à ma voix. Moi, dans ma famille, on parle beaucoup, mais on dit rarement les choses qui sont importantes.
On dit quoi, alors ?
On dit des blagues. On raconte ce qu'on a fait, on raconte ce qu'on a mangé, on raconte des choses très factuelles ou des histoires des autres gens, mais on raconte rarement quand même ce qu'on ressent, ce qu'on a sur le cœur. À chaque fois que j'ai essayé aussi d'exprimer des choses auprès de ma mère, on est toujours tombé là-dedans. C'est-à-dire qu'elle est toujours tombée dans « ce que tu dis, c'est horrible, tu me fais beaucoup trop de mal », ou alors « mais moi, je t'aime, nanana », voilà. Mais oui, d'accord, oui, on s'aime, oui, on se fait souffrir. Mais en dehors de ça, est-ce qu'on peut juste parler de ce qui se passe ?
Et comment vous avez parlé à votre mère ?
Par écrit. Je lui ai pas parlé. Je pense que j'arrive pas à parler. C'est trop sensible. Je pense que ma voix se briserait. Et je pense que j'aurais du mal à aller au bout sans pleurer. Et je pense que j'ai pas envie. J'ai préféré écrire pour pouvoir, prendre le temps de réfléchir, en fait. C'est ça qui me manque, moi, dans ma famille, c'est qu'il n'y a pas de silence. Non, il n'y a jamais de silence. La personne qui veut vous dire quelque chose, elle va parler, elle va continuer, elle va enchaîner, et ça ne s'arrête pas.
Elle vous a répondu, votre mère ?
Oui. Mais j'avais été très dure dans ce que j'avais écrit, et du coup, elle a juste retenu qu'elle était blessée. Donc au final, ce que je disais, que je voulais éviter par la parole directe, ça n'a pas été trop évité malgré tout. Mais c'était intéressant parce que moi, ça m'a permis aussi de me dire, bon, bah, j'ai pas communiqué de la bonne manière. J'ai été trop dure. Et donc j'ai réécrit. J'ai répondu, quoi. Mais en étant plus mesurée. Bonjour, j'ai bien lu ta lettre, entendu ce qu'elle contenait. Le lien dans tout ça, c'est la parole. Tu vois, quand on te reproche de parler trop fort, en réalité, je crois qu'il ne s'agit pas de ça. Parle fort si tu veux. Moi, en fait, ça ne me dérange pas tellement. Sauf quand c'est pour monopoliser la parole. Ces moments où tu parles non-stop et où tu n'écoutes même pas la réponse de ton interlocuteur. Ces moments où tu poses une question mais où tu n'écoutes pas la réponse. Ces moments où toi, mamie et toutes les autres femmes de cette famille n'écoutent pas le nom qui vient des enfants. En ce qui te concerne, ce que je ressens, c'est que tu parles pas assez des choses sensibles et trop du reste, sûrement pour compenser. Et si j'ai perdu la voix l'année dernière et si je la récupère cette année, je ne pense pas que ça soit pour rien. Je pense que c'est parce qu'entre-temps, je me suis vraiment posé la question de ce que j'avais à dire. Alors je ne sais pas. Je te demande honnêtement ce que tu en penses. Si tu as la moindre curiosité quant à savoir qui je suis, tiens-moi au courant. Valentine.
Vous l'aimez, votre mère ?
Sûrement. C'est difficile à dire. Bah, je veux dire, je pense que oui, on n'a pas tellement le choix. Oui, si, si.
Thank you. never bends. And in my throat, voices he'll never hear. He pulls at me like a cherry tree. And I can still move, but I don't speak about it.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Extinction de Voix, un reportage d'Élise Andrieux réalisé par Perret Legras avec un coup de main de François Connac pour réaliser cette rediffusion d'un reportage diffusé pour la première fois le 1er décembre 2014. Merci à Valentine Chantal, à Josiane Erquibianco, à Marie-Agnès Faure, à Elisabeth Fresnel, à Aline Cèdre, à Claude Fugain et à Claire Gilly. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Si vous voulez communiquer avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, Les Pieds sur Terre France Culture. Nous avons également un compte Twitter et vous pouvez vous reporter sur le site de France Culture, franceculture.fr, pour toutes les informations qui concernent précisément cette émission.